Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Laurent Grisel, bonjour. Vous êtes écrivain et poète. Vous avez aussi été ouvrier en banlieue parisienne, puis dans le Dunkerquois. Vous avez été permanent national d'une association de consommateurs et d'usagers et conseil en environnement. Vous êtes membre du collectif littéraire Remue.net, qui est un site de référence en poésie et littérature contemporaine. Vous avez écrit « Changeons d'espace et de temps, les misères ou les malheurs de la guerre d'après Jacques Callot, noble Lorrain ». Vous avez écrit aussi « Bestiaire corse »,« PP comme polypropylène », ensemble de 15 poèmes, « Descartes, tire à l'épée », « Hymne à la paix », »,« Journal de la crise de 2006, 2007, 2008, d'avant et d'après ». Et enfin, ce recueil qui s'intitule « Climat ». Et nous sommes précisément ici à la Maison de la Poésie pour discuter de ce livre « Climat » dont le titre est au pluriel, signalons-le. Ce livre « Climat » est constitué d'une série de textes, poèmes, vous m'en parlerez justement, dans lesquels on peut retrouver aussi bien la lutte des Indiens Munduruku contre l'implantation d'une mine de bauxite et d'un barrage sur leur lieu de vie, mais aussi la formation géophysique de la Terre, la fonte des neiges du Kilimandjaro, la formation des ouragans, l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, les rapports d'experts du GIEC et du climatologue James Hansen, en passant par une critique du marché du carbone, etc., etc. Bref, au lecteur de jouer, d'aller lire ce recueil Climat. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer comment s'est constitué ce livre et quelle en était l'intention ?
Alors, d'abord, pour moi, c'est un poème unique. Donc c'est pas un recueil, c'est un poème. Il est constitué de différentes séquences, de bouts et de morceaux, si vous voulez, qui sont de taille, d'aspect différents. C'est un poème dans la mesure où c'est fait pour être lu en continuité. Mais c'est aussi ce que j'appelle une matrice. C'est une matrice qui peut être parcourue de différentes façons. Donc on peut en faire différentes lectures partielles, ou une seule lecture complète, qui est celle qui est présentée dans l'édition papier. Dans l'édition électronique, il y a deux autres parcours qui sont proposés, l'expérience montre que ça donne au lecteur la liberté de construire encore d'autres parcours. Mais c'est toujours du même poème, d'un même poème, un poème qui peut se lire de différentes façons. Ah, c'est la liberté du lecteur. C'est un poème, et plus précisément, c'est une épopée. Une épopée, il y a un certain nombre de traits qui font qu'une épopée est une épopée. Par exemple, ce poème commence par des remerciements, qui sont un équivalent plaisant et contemporain de l'adresse initiale de toute épopée, dans laquelle la aide, le griot, qui sais-je, s'adresse à son auditoire, prend la parole, dit « je vais vous raconter ». Et là commence une liste généalogique, celle des bateaux qui partent à la conquête de Troie, etc. Là, c'est les remerciements, c'est la généalogie intellectuelle du poème, c'est en même temps ces remerciements, une introduction à quelques-uns des personnages, que le lecteur, quelques-uns des héros, puisque dans une épopée, il y a des héros que le lecteur trouvera dans le poème, y compris une petite initiation à l'effet de serre, telle que l'avait compris en son temps Arrhenius, etc. Il y a ma maman aussi. Donc c'est vraiment tout à fait généalogique. Et donc, c'est une épopée.
Alors, une question toute simple dans le titre, comme je le disais dans la présentation, c'est climat au pluriel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, enfin, ou du moins nous donner quelques bribes, quelques esquisses de ce pluriel-là que vous empruntez?
Dans ce poème, dans cette épopée, il y a plusieurs climats, donc c'est le pluriel. Il y a le climat de Vénus, Vénus chauffa. Il y a celui de Mars, c'est glacial. Il y a le climat de la fin du Permien sur notre petite planète. Il y a encore d'autres climats. Il y a des climats tropicaux. Il y a des climats glaciaux de l'Arctique ou de l'Antarctique, où il y a ces morceaux de glace continentale qui glissent sur le socle rocheux et qui plongent dans l'océan. Et donc il y a les climats actuels et puis il y a les climats futurs selon ce qui s'emballe et qui nous échappe ou selon ce que nous pouvons faire pour essayer de rattraper le coup. Donc c'est un pluriel, c'est le pluriel de la liberté, de l'exercice de la liberté, de la responsabilité.
Alors on comprend, et l'auditeur comprendra, que c'est un texte qui a une dimension globale sur le questionnement du réchauffement climatique, de l'empreinte de l'humanité dans son environnement, sur la Terre, la planète. Alors, vous commencez ce livre, entre autres, par la lutte des Indiens Munduruku. Oui. C'est comme ça qu'on prononce ?
C'est comme je le prononce, mais je ne suis pas du tout sûr. Mais bon.
Est-ce que... qui est un texte, un très beau texte, une très belle séquence. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette lutte ?
Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis que j'ai écrit, ils ont gagné. C'est-à-dire que le barrage ne se fera pas. Bon, bien entendu, il faut rester vigilant, mais...
C'est un barrage qui se trouve...
Sur le fleuve Tapajós ou Taparos, je ne sais pas. Et donc, vous savez que c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a une loi au Brésil qui dit sur le territoire des Indiens, leur territoire leur appartient. Mais cela suppose que on fasse en quelque sorte un relevé géographique ou cadastral. Et comme par hasard, ces relevés ne sont jamais faits. Et par conséquent, ils peuvent toujours pas exercer leurs droits. Et là, en l'occurrence... ils ont. C'est un des épisodes de cette séquence. Il y a une séquence d'arpentage. Depuis 2001, le peuple Munduruku attend que les autorités délimitent leur territoire, le territoire de leurs ancêtres, et les droits du peuple, ce qu'il en reste, ce qui sera conquis dans la lutte, sont attachés à ce territoire, à ses limites. Et le cacique Juarez Sao Munduruku, nous en avons assez d'attendre. 70 hommes, femmes, enfants parcourent la forêt avec des machettes et un GPS, le Global Positioning System, une constellation de 24 satellites, et ils plantent les pieux exactement là où il faut. La lutte entraîne la répression, qui entraîne la lutte, qui entraîne la répression, qui entraîne l'auto-organisation, qui entraîne la sympathie et la compréhension, qui entraîne la répression, qui entraîne le soutien et la solidarité. La tortue est l'animal rusé, stratège, déterminé. Il vient à bout du tapir, du jaguar, de l'anaconda. Les guerriers Munduruku se peignent sur le corps des écailles de tortue. C'est la fin. Il se passe plein de choses entre-temps. Par exemple, il y a un épisode dans cette lutte dans lequel certaines parties de la tribu se font acheter, il n'y a pas d'autre mot, par Celestial Green Ventures. Sur 2 millions d'hectares, aucun droit de planter, ni brûler, ni exploiter, etc. Donc, il y a, dans cette épopée de lutte, il y a aussi... Un très bref petit cours sur la valorisation financière des forêts soi-disant vierges. Cette séquence est elle-même extrêmement composite. Elle comprend énormément d'aspects qui sont fondus dans la même coulée, dans la même prosodie.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement, parce qu'en fait, ces séquences-là sont très diverses, mais s'intègrent à, comment dire, à une pensée, d'une certaine manière, une réflexion aussi de votre part, mais aussi une qui est globale, et dans la mise en parallèle de ces différentes séquences de textes, finalement, il y a une compréhension globale qui émerge. Est-ce que chez le lecteur, c'était l'effet sans doute recherché?
Oui, c'est une de mes obsessions dans tout ce que j'écris, que ce soit prose ou poésie. J'essaye de réunir ce qui est dispersé ou séparé. L'être est entier. C'est l'élément de base. C'est déjà de ne pas avoir d'un côté ce qui est scientifique, de ce côté ce qui est littéraire, ou tous les aspects de la vie sont réunis, sont tissés, sont noués. Ça, c'est, je dirais, un aspect. Et donc, dans ce mouvement de nouage, qui est le mouvement du poème, ben, j'espère que le lecteur acquiert une certaine liberté. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un rail, on n'a pas vraiment de liberté. À partir du moment où on commence à avoir une vision de tout le réseau de chemin de fer, on a un peu plus de liberté, si vous voulez. Bon, même s'il y a un côté peut-être éventuellement de provocation, mais enfin, ce serait un peu enfantin et superficiel. Mais puisqu'après tout, tout est poésie, pourquoi pas avoir des aspects d'économie politique dans un poème, à condition qu'il n'y ait pas que l'économie politique. Il peut y avoir aussi des luttes populaires, à condition qu'il n'y ait pas que ça, etc., etc., etc. Donc ça, c'est, je dirais, une conception qui peut émerger de la lecture du poème, dans la mesure où ces alliances, ces parallélismes, comme vous dites, sont convaincants, sont effectivement poétiques au sens de dynamique d'unité d'un dispositif symbolique, d'un dispositif de langage.
Est-ce que vous accepteriez de nous lire le texte autour du travail de James Hansen, qui est donc un célèbre climatologue qui a été un des premiers à alerter sur les changements climatiques, qui s'est affronté aussi à différents lobbies et hiérarchies.
Alors, Hansen, il fait partie des héros. C'est tout à fait historique. Il publie encore. Il est à la retraite, mais il continue de publier. Il y a à peu près un an, il a publié avec des collègues un article retentissant qui démontrait que toutes les prévisions sur l'élévation du niveau des océans étaient fausses, qu'elles étaient en l'occurrence sous-estimées. Dans les remerciements, il fait partie de ceux que l'on remercie. Je vais d'abord lire cette courte séquence et puis ensuite une autre. Nous aimons et admirons Hansen, l'émotif, le rigoureux, qui, lorsqu'un chef des relations publiques de la NASA lui donna l'ordre de ne plus faire de conférences ni de parler aux journalistes sans accord préalable, raconta l'histoire à toute la presse. James Hansen, qui publie des articles colériques, brisant la convention universellement respectée dans les journaux scientifiques, qui est d'écrire sans émotion apparente. Nous remercions le peuple, Mundurucu, etc. Et puis maintenant, son travail, au regard du travail collectif, IPCC, International Panel on Climate Change, c'est le groupe, le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Leur cinquième Assessment Report Climate Change 2013 donne a comprehensive assessment of the physical science basis of climate change, une évaluation complète. Nos rapports de 2001 estime à des siècles ou millénaires la fonte des glaces du Groenland et une montée des eaux marines de 9 à 88 cm. Hansen, 2005, le rigoureux, l'émotif, n'est pas d'accord du tout. Plus 1 degré, laisser agir ce plus 1 degré quelques temps, quelques dizaines d'années, c'est assez pour déstabiliser les calottes glaciaires, submerger les récifs coralliens de Hawaï. Plus 1 degré, c'est grosso modo de 1901 à 2012. On y est déjà. Mais on n'y reste pas. Ça continue de monter. Alors, que se passe-t-il? On savait dès le milieu des années 2000 que les températures régionales, là-haut, vers le pôle Nord, montent deux fois plus vite qu'ailleurs. Quand même, on le contredit. C'est la discussion, c'est la science. Hansen, 2007, insiste. N'oubliez pas l'albédo flip. La fonte des neiges et glaces assombrit les surfaces. Les rayons du soleil sont mieux absorbés. Ce qui réchauffe neige et glace, ce qui les assombrit, ce qui augmente l'absorption de la chaleur solaire, ce qui... etc.
Alors, cette poésie, cette forme de poésie est étonnante. C'est didactique. Le lecteur y apprend des choses, on y apprend des choses. Il y a une volonté de connaissance apportée au lecteur. En tant qu'écrivain, comment situez-vous, en fait, votre écriture ?
Climat, je l'ai écrit de janvier 2014 à octobre 2015. Donc, ça a pris à peu près une petite deux années ou une année et demie, un petit peu grossi. Il y a un enjeu dans ces questions de climat qui est un enjeu en même temps politique et esthétique, inséparablement. C'est la question de la sensibilité. Est-ce qu'on est sensible? Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Alors, c'est aussi un enjeu psychologique parce que, au sens où faut avoir le cœur bien accroché, on préférait ne pas savoir. Oser regarder en face ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, ce qui est prévisible. C'est pour ça, par exemple, que Hansen est un des héros, parce qu'il regarde les choses en face. Et d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas que moi. Toute personne qui commence à prendre la mesure sensible des phénomènes change de style, y compris sur le plan littéraire. Lui, le style de ses articles scientifiques tranche sur le style convenu. Bah, ça arrive à Hansen, ça m'arrive à moi aussi. Et je suppose à quantité de gens qui, dont la sensibilité et l'intelligence, en même temps, indissolublement, sont ou seront touchés. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, c'est complètement de la poésie, comme je le dis. Il y a eu quelques réactions du style « c'est pas la poésie », mais enfin bon... moi, je suis au contraire étonné. Je pensais que ce texte serait massivement refusé, dédaigné, et en fait, je me trompe complètement. Et y compris dans les milieux, peut-être même d'abord dans les milieux littéraires. Et en fait, les écrivains de poésie ont adopté ce texte. Donc, ils l'ont pris comme leur. Effectivement, c'est tout à fait de la poésie. Enfin, il n'y a pas d'erreur. Je pense que n'importe quel lecteur, auditeur, là, qui se le procurera, qui le lira, ça saute aux yeux. Bon, après tout, on fait des poèmes à partir de lettres d'amour. Je ne sais pas pourquoi on n'en ferait pas à partir de la fonte des glaces, très franchement.
C'est de la poésie, dans la mesure où il y a des rythmes, il y a une musicalité. Et d'ailleurs, il y avait un autre texte, une autre séquence. Oui. Justement, qui prend le contre-pied de cette insensibilité, je trouve en tout cas, c'est « Faisons des haies ».
Faisons des haies, arborées, fleuries, empapillonnées, des haies à oiseaux, à abeilles. Fauchons les OGM, propriété privée de sociétés d'extorsion de fonds. Ces plantes transformées en tueuses d'insectes et résistantes aux herbicides. Ces semences standards, les mêmes dans le monde entier, sur tous les terrains, sous tous les soleils. Que vivent les semences paysannes, gratuites, ressemées d'une année sur l'autre. Chaque paysan, observateur des mutations, des adaptations, obstiné, choisisseur des meilleures plantes, sur cette pente, sur ce plateau, sur cette terre, sous ce soleil. Montagnard, échangeant ses expériences avec l'Indien du Pérou, avec celui du Ladakh, est l'agronome. L'agronome échangeant avec les chercheurs agronomes sans brevet de la science publique. L'agronome innombrable et multiplié. Mais pas quelques-uns, quelques pionniers, en masse, par millions. Vite, vite, tous, il faut changer de dimension.
Dans ce texte, enfin dans cette épopée climat, vous parlez du climat, des effets globaux, et vous parlez aussi des boucles qui sont présentes et que vous mettez en relief à travers, à travers vos textes. Alors, de quoi on parle quand on parle de ces boucles-là? Oui. Et donc, qui sont des textes, comment dire, qui s'intéressent, ou du moins qui sont documentés sur des fonds, on va dire, d'histoire géophysique, de formation de la Terre. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces boucles et peut-être nous lire aussi une des séquences? Ce sont des boucles de rétroaction
De rétroaction positive, on va dire. Une boucle de rétroaction positive quand elle produit une accélération, une auto-accélération, un auto-renforcement d'un phénomène. Elles sont négatives quand elles concourent à son amortissement, à son amoindrissement, à son extinction. Et donc, c'est un des enjeux de ces questions du climat. Le danger, c'est que on atteigne une température à partir de laquelle les phénomènes d'emballement ne sont plus, ils sont plus ponctuels et puis bon, ça s'éteint et puis c'est amorti, puis finalement il y a un petit emballement ici ou là, c'est un petit peu comme une bulle. Bon, enfin, si on arrive à éteindre, ça va s'arrêter. Mais il arrive un moment où les emballements sont tellement nombreux, tellement puissants, qu'effectivement, on part dans le décor.
C'est l'effet boule de neige. Enfin, l'expression effet boule de neige, c'est un peu ça.
Mais boule de neige, c'est trompeur parce qu'il y a, au bout de la pente, enfin, c'est en bas, ça s'arrête. Mais là, non, ça continue de façon accélérée. Et donc, cette question des boucles de rétroaction positive, elles reviennent à différents moments. Tout à l'heure, on a lu dans les Indiens Monoloku, vous voyez, c'est pas seulement dans les phénomènes naturels, c'est aussi dans les phénomènes historiques. À un moment donné, le pouvoir échappe au pouvoir et il est débordé et il y a des quantités dans la société de phénomènes de boucles de rétroaction positive. La situation leur échappe et on change de régime. Pour le meilleur ou pour le pire. Mais en tout cas, ça se produit. Donc ça se produit sur le plan des sociétés. Ça se produit dans la nature, dans le climat. Et donc, bon, c'est comme ça que se produit le désert. C'est que c'est comme ça que le méthane qui est contenu dans les lacs est relâché, par exemple. Il suffit d'un léger mouvement ascendant. Alors. Voilà. Voilà, ça c'est une séquence de boucles. Le méthane, c'est H4, effet de serre 84 fois le CO2 sur 20 ans, 28 fois à 100 ans, et réchauffe les océans de plus en plus profondément. Ce qui libère les hydrates de méthane, ce qui augmente l'effet de serre, ce qui réchauffe l'atmosphère, ce qui réchauffe les océans, les lacs dans lesquels sont enfouis beaucoup de matières organiques apportées par les cours d'eau. Ce qui a eu le temps, depuis des siècles, des millénaires, de produire des hydrates de méthane, lesquels, par réaction auto-entretenue et accélérée, dans des eaux déjà saturées de méthane, par la montée progressive de la chaleur, remontent à la surface, etc., etc. Et il suffit d'un léger mouvement ascendant de l'eau pour que le gaz, en remontant, subissant moins de pression, se forme en bulles. Et quand elles sont à quelques mètres de la surface, à la lumière, elles sont comme des colonnes scintillantes, bulles qui accélèrent la montée de l'eau, laquelle fait remonter plus de gaz, qui forme plus de bulles, ce qui produit une colonne d'eau et de gaz jaillissant, ce qui entraîne de proche en proche d'autres colonnes d'eau et de gaz. Il y a tellement de monstres de gaz dans les profondeurs, dans les nuits. Du dioxyde de carbone aussi. Nuit du 21 août 1986 au Cameroun, dégazage du lac Nyos. Tout le monde dormait. Plus de 1700 morts étendus sur leur couche le matin. Donc, c'est dans ce poème, c'est en même temps un choix scientifique, dans la littérature scientifique, et c'est aussi un choix politique que de prendre comme moteur de ce poème ces boucles de rétroaction positive.
Est-ce que vous pourriez nous lire un autre texte, je ne sais pas les dimensions, qui restitue alors, de la manière dont je l'ai lu, l'humanité dans sa simple humanité, dans son environnement et dans un rapport aussi cosmogonique, on va dire.
Oui, c'est un poème cosmique. Il n'y a pas seulement le cosmos... l'errance, les zigzags entre les deux pôles, Mars et Vénus, il y a aussi notre place dans l'univers. Je ne sais pas les dimensions, ni les proportions. Je ne les saisis pas bien. J'avance dans un bois, dans une forêt. Je ne vois rien. Je reçois en pleine figure des gifles de feuilles, de branches. Je comprends toujours trop tard. J'aime l'eau des feuilles. J'aime l'eau qui me couvre le visage. Je ne sais vraiment où est l'est ni l'ouest. Mais le ciel est au-dessus, sûr.
Alors, j'ai une dernière question à propos de climat. Vous ouvrez, on peut dire une ouverture d'une certaine manière, vers, c'est quelques 3-4 séquences autour de la Terre dans sa dimension justement astronomique, certaine manière, cosmologique, mais là, astronomique.
Oui, mais il y a quand même quelque chose qui doit être toujours, il doit y avoir toujours les remerciements, il doit toujours y avoir les séquences célestes de la fin. Une séquence qui raconte l'invention, c'est-à-dire la découverte, par une équipe internationale conduite par Hélène Courtois, de notre adresse dans l'univers, puisque nous habitons donc le super amas Laniakea. Un super amas de quelques 100 000 galaxies de la taille de la nôtre, la Voie lactée, auquel ajouter 1 million de galaxies plus petites, toutes allant ensemble à environ 630 km par seconde. Un ensemble auquel on peut donner ce nom, Laniakea, en hawaïen, la langue du peuple de navigateurs qui, sur leur bateau, vont loin et la nuit s'orientent aux étoiles. Lani, ciel, paradis, Kea, large, spacieux, immense. Laniakea, vivant sa vie. On en a la certitude quand on en voit les contours, les lignes de partage des eaux. Par cette individuation, le superama Laniakea prend place auprès des autres. Persée poisson, chapelet, Hercule, chevelure de Bérénice, ensemble, univers nôtre et univers voisin, 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 bulle, mousse d'univers, adossé à l'inconnu, dessinant par vide, par grand vide, les vides, l'inconnu matière qui manque. La lumière, 300 000 km par seconde, prend une journée pour parcourir le système solaire, 100 000 ans pour traverser la Voie lactée, 7 millions d'années notre groupe local, 500 millions Laniakea, 13 milliards 800 millions l'univers visible. La fenêtre est ouverte. L'air est la lumière.
Laurent Grisel, merci.